Donc la première question qu'on m'a demandé de traiter, c'est qu'est-ce que la biodiversité, puisque apparemment c'est un sujet qui n'est pas toujours très bien compris. Bon, d'abord, il faut savoir que le terme de biodiversité est assez récent, donc il a été introduit dans les années 1980, essentiellement comme une contraction du terme diversité biologique qui préexistait depuis assez longtemps. Il existe deux acceptions réellement du terme. La définition scientifique, la biodiversité, c'est la diversité du vivant sous toutes ses formes, et on va voir par la suite quelles sont ses formes. Mais ce que je voulais mettre en exergue, c'est que c'est donc ça caractérise une propriété du vivant. Dans le langage courant, dans la plupart de la presse ou à la télévision, quand on parle de biodiversité, en fait, les gens parlent souvent de l'ensemble du vivant. Certains de mes collègues parlent du tissu vivant de la planète. En fait, ça désigne l'ensemble du vivant lui-même. Donc, il y a un glissement sémantique depuis l'aspect propriété du vivant jusqu'à désigner l'ensemble du vivant. Et finalement, on en arrive très souvent à une équation avec la nature en général. Quand on parle de conservation de la biodiversité, on parle souvent de conservation de la nature. Je tenais à signaler cette ambiguïté qui surgit assez fréquemment. Alors, bon, sous quelle forme se présente la diversité biologique ou biodiversité ? D'abord, sous la forme la plus connue, c'est la diversité des espèces. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est facilement compris par tout le monde. Par exemple, ici, pour ce qui est des plantes à fleurs, on a une immense diversité de formes et de types d'espèces. Donc, vous voyez simplement quelques exemplaires ici. Ce sont, en l'occurrence, des plantes médicinales ici. Mais il existe d'autres formes de diversité à un niveau plus bas et à un niveau supérieur, et puis encore d'autres formes. À un niveau plus bas, on a la diversité génétique. Je dis plus bas parce que à l'intérieur de chaque espèce, on a pas mal de diversité génétique. Par exemple, ceci, c'est un exemple où on vous montre différents types de maïs. Il y a plusieurs centaines de variétés différentes de maïs qui, parfois, ont des aspects d'ailleurs extérieurs assez différents. Donc cette diversité génétique, c'est en fait ce qui fournit la base ultime de la diversité des espèces, puisque c'est par les mécanismes génétiques que des espèces se créent. Alors, par contre, à un niveau supérieur, on a aussi la diversité des écosystèmes, où vous pouvez tous vous rendre compte, bien sûr, que les systèmes qui sont représentés ici sont assez différents. En fait, ils sont différents par plein de caractéristiques, mais ils ont aussi des caractéristiques communes. Donc, ce qui permet de traiter d'un écosystème comme on traite d'un organisme. Il y a des caractéristiques identiques parmi tous les organismes. Donc, on a à la fois des différences, cette diversité, et à la fois des points communs. On peut aussi caractériser d'autres formes de diversité. Elles sont moins souvent utilisées, mais très importantes d'un point de vue écologique. Par exemple, la diversité des interactions. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais vous voyez tout de suite que dans les interactions entre plantes, insectes, mammifères, oiseaux, etc., il y a des formes d'interaction très différentes, de type prédation, herbivorie, de type mutualisme entre les plantes et les pollinisateurs, là le papillon par exemple. Enfin, il y a des tas d'interactions différentes, et quand on perd des espèces, on ne perd pas que des espèces, on perd aussi des formes d'interaction. Donc c'est très important de se rendre compte de ça. Voilà, alors un petit commentaire général sur la biodiversité, c'est que cette biodiversité est encore extrêmement mal connue et d'ailleurs fortement négligée par rapport à d'autres types de sciences. On connaît probablement beaucoup plus sur les étoiles dans l'univers que en fait, les organismes qui sont autour de nous. Et ceci vous montre une estimation. Bon, comme toutes les extrapolations, elles sont assez grossières, bien entendu, mais ça vous montre donc en foncé là à gauche, vous avez ce qui a été décrit scientifiquement, donc ce qu'on peut considérer comme connu, bien que le terme connu soit peut-être un peu excessif parce qu'on ne les connaît pas vraiment. En fait, c'est ce qui a été nommé pour la plupart d'entre ces espèces. En fait, on ne les connaît pas du tout, mais c'est ce qu'on a nommé. Donc vous voyez, on a environ, par exemple pour les insectes, là, la première barre, on a environ un peu moins d'un million d'espèces qui ont été décrites, mais on estime qu'il y en a environ 8 millions. Comme je dis, c'est une extrapolation, donc par définition, ce n'est pas très précis, mais ça vous donne un ordre de grandeur de ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas. Donc en fait, la majorité de ce qui nous entoure, on ne le connaît pas encore. Bon, c'est surtout dans les régions tropicales, mais néanmoins, même dans nos régions, il y a encore des tas de choses qu'on ne connaît pas. Là où le problème de la biodiversité surgit, c'est que nous sommes dans une période de qu'on appelle d'érosion de la biodiversité ou de perte de biodiversité. Alors, il faut placer ça dans son contexte, c'est-à-dire, bon, ça, c'est vraiment un schéma très grossier qui vous montre un peu la diversification de la vie au cours de l'histoire de la Terre. Et ce qu'on remarque, c'est que la largeur là, du graphique indique le nombre de familles ou d'ordres ou de genre, enfin ça suit le même type de dynamique. Donc en fait on a grosso modo dans l'ensemble une diversification, ça devient plus large là au cours du temps, mais en même temps on a des phénomènes d'extinction de masse. La dernière, qui est celle du Crétacé, là, c'est la disparition des dinosaures, et l'idée est qu'aujourd'hui nous nous trouverions dans une sixième phase d'extinction de masse. Alors, les données parlent nettement en la faveur de cette hypothèse, puisque vous voyez ici les taux d'extinction moyens des espèces tels qu'ils sont étudiés dans les fossiles, c'est à gauche, tels qu'ils sont documentés aujourd'hui de façon... Enfin, c'est des sous-estimations massives, mais c'est les extinctions d'espèces qui ont été étudiées scientifiquement, donc dont on est absolument certain. Et puis, à droite, là, en rouge, vous avez ce qui est prévu pour le siècle en cours. Alors, attention, parce que l'échelle à gauche, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire chaque fois qu'on passe un cran au-dessus, on multiplie par 10. Et donc, vous voyez que, en fait, grosso modo, on est actuellement à des taux d'extinction entre 100 et 1000 fois supérieurs au taux de base géologique dans le passé, et que ce qui est prévu pour le siècle à venir, ce sont des taux 10 000 fois supérieurs au taux de base. C'est quand même des ordres de grandeur assez parlants, ça montre qu'on est vraiment sorti du mode normal de fonctionnement de la biosphère. La perte de biodiversité n'est pas homogène dans l'ensemble du globe, c'est-à-dire que dans les zones tempérées dans lesquelles on se trouve, la perte de biodiversité s'est déjà produite largement dans le passé, mais qu'elle s'est ralentie plus ou moins récemment, tandis que dans les zones tropicales, la situation est absolument catastrophique. Mais là, on voit la zone néotropicale, c'est-à-dire la zone des tropiques dans les Amériques. En fait, on a perdu 83% des populations de vertébrés au cours des 40 dernières années. Donc c'est absolument catastrophique si ça se continuait comme ça, on n'aura bientôt plus rien du tout. Donc quelles sont les causes de cette érosion de la biodiversité? Elles sont résumées ici. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous avez là en haut, c'est en anglais, mais vous avez les différentes colonnes qui correspondent aux différents facteurs. Donc je vais vous les lire. Premier, c'est destruction d'habitat. C'est ça qui, d'ailleurs, joue un rôle très important dans les forêts, puisqu'on fait de la déforestation dans les tropiques, donc c'est le premier facteur de destruction. Il y a le changement climatique, mais là, il est encore assez faible, ce qui explique qu'il n'y a pas de case rouge, là. Ça veut dire que l'effet est encore faible aujourd'hui, mais que les flèches montent, c'est-à-dire qu'on prédit que ça va être catastrophique dans le futur, par contre. Les espèces exotiques qui envahissent de nouveaux endroits, donc assez curieusement... Ce n'est pas quelque chose auquel on penserait spontanément, mais c'est un facteur très très important d'extinction d'espèces, surtout sous les îles. La surexploitation des ressources, ça c'est un autre facteur qui est connu, et puis la pollution. Mais comme vous voyez, ça dépend des types de milieux, ce n'est pas les mêmes facteurs dans tous les milieux. Bon, ce qui est intéressant à voir, c'est que tous ces facteurs sont d'origine humaine. Et que donc, quelque part, la réelle cause de tout ça, c'est l'explosion de la population et surtout de la production économique par l'homme, puisque, ça c'est un petit graphique qui vous montre où on en est là, on est un peu plus loin déjà. Donc on est dans une belle courbe exponentielle. Alors bon, il y a des preuves que ça se ralentit, d'accord, mais si vous notez un petit peu les projections démographiques des Nations Unies et d'autres organismes, vous remarquerez que tous les 10 ans, on rajoute 1 milliard de personnes comme projection pour la fin du siècle. Enfin, moi, j'ai déjà remarqué ça. Vous pouvez retrouver les rapports de 10 ans en 10 ans. On voit que ça ne se stabilise pas autant qu'on a bien voulu le dire. Donc, ça va se stabiliser quelque part ou bien ça va s'effondrer, mais on ne peut pas continuer éternellement comme ça. Mais c'est clair que là, c'est un facteur de pression sur la biodiversité qui est fondamental. Et j'insiste sur le fait que les chiffres sont plus importants en termes d'augmentation de richesse individuelle que de la population elle-même. Donc, en fait, le premier facteur, c'est réellement l'augmentation de la production et de la consommation par tête d'habitant. C'est important de se rappeler ça. Alors maintenant, en quoi tout cela nous concerne-t-il? Alors je voulais, j'ai pas le temps d'aller en détail, mais vous donner quelques éléments pour comprendre pourquoi c'est important. En fait, on dépend de la biodiversité de tas de façons différentes. Alors, j'ai donné trois catégories principales. Ben, la première, c'est par la production de biens et de services qui ont une valeur d'usage direct, nourriture, bois, activités de loisirs, etc. Mais je vais plutôt vous donner un exemple particulier qui est assez parlant, c'est celui des produits pharmaceutiques. Je ne sais pas si vous saviez qu'on utilise encore aujourd'hui environ 25 000 espèces de plantes à des fins médicinales dans le monde. On a identifié plus de 30 000 produits naturels bioactifs donc qui contribuent aux médicaments qui sont créés et surtout qui ont été créés. Et surtout, ce qui est très important, c'est que trois quarts des nouveaux médicaments contre le cancer ou contre les maladies infectieuses, en fait, qui ont été découvertes au cours des 25 dernières années, proviennent en fait de prospection donc d'espèces naturelles et ne sont pas des produits de synthèse. C'est-à-dire qu'on peut faire des produits de synthèse par la suite, une fois qu'on a découvert les molécules actives, mais on serait bien incapable de découvrir ces molécules par nous-mêmes. Voilà, alors deuxième catégorie de raisons, c'est que la biodiversité peut être vue comme une sorte de patrimoine naturel par comparaison avec le patrimoine artistique de l'humanité, par exemple, et qui est lié à toute une série de valeurs intrinsèques, culturelles, esthétiques, éthiques, spirituelles, éducatives. Bon, là, c'est plus difficile à quantifier, bien entendu, mais c'est très important. Donc, il y a beaucoup de débats sur ce sujet pour savoir comment est-ce qu'on peut quantifier ça et les comparer aux autres types de valeurs. Et puis, dernier type de raison, c'est que la biodiversité soutient ce qu'on appelle des services écologiques ou services écosystémiques. J'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il est un peu barbare, donc je parle de services écologiques. En fait, l'idée est simple, c'est que les écosystèmes, par le fonctionnement naturel, assurent toute une série de fonctions vitales pour la planète ou pour des populations plus localisées qui ne sont pas prises en compte par les mécanismes économiques classiques, par exemple productivité, stabilité des ressources biologiques, fertilité des sols, régulation du climat, etc. etc. Alors, il faut savoir, bon, quelques petites dias simplement pour attirer votre attention sur le fait que tout ça, cette dernière catégorie de raisons était inconnue il y a encore 20 ans, qu'elle fait l'objet de recherches très actives. Et donc, comme c'est notamment sur ce sujet que je travaille, je voulais vous montrer quelques dias pour vous montrer quel type de recherches sont faites sur ce sujet. Par exemple, ceci est une vue aérienne d'une expérience qui a été faite pour tester cette idée que la biodiversité joue un rôle important en termes de production de services. Ben, c'est une expérience qui fait 7 hectares et puis on manipule dans ces expériences la diversité végétale pour voir quel est l'impact de la diversité en tant que telle, indépendamment des espèces particulières, sur la productivité de ces prairies. Idem en Europe, on a fait la même chose mais sur des tas de sites différents. Et le type de résultat qu'on trouve est assez parlant, c'est-à-dire que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on voit qu'en moyenne, on a une augmentation très forte de la production végétale lorsqu'on augmente la diversité végétale dans les systèmes naturels. Alors on pourrait discuter des systèmes agricoles, ce serait très intéressant de faire la comparaison. Pourquoi ça marche différemment dans l'agriculture moderne? Ce qu'on trouve dans les mêmes expériences, c'est que dans le même temps, on a une diminution de la variabilité de la production végétale. Donc c'est une mesure standardisée de la variabilité qui diminue avec le nombre d'espèces. Donc on augmente la production et on diminue la variabilité de cette production entre années. Enfin, bon, on peut regarder l'impact de la biodiversité sur toute une série de services qui sont non seulement de type fourniture de nourriture, mais aussi de régulation, comme le contrôle biologique, etc. Les flèches vertes vous montrent les effets positifs de la biodiversité, tels qu'ils sont attendus à gauche, et puis mesurés expérimentalement à droite, et vous voyez que dans beaucoup de cas, on a pu établir avec certitude que la biodiversité a bel et bien un effet positif. Une dernière dia pour attirer votre attention sur les conséquences à long terme de tout cela. C'est un petit exemple qui n'est pas scientifique dans le sens où ça n'a pas été étudié quantitativement et de façon, disons, rigoureuse, mais c'est quand même assez parlant, c'est-à-dire ce que font ces gens-là. Ils vivent au Népal, dans l'Himalaya, mais ils sont occupés à polliniser à la main les fleurs de leur verger parce que les pollinisateurs locaux ont disparu et que les pollinisateurs introduits ne font pas l'affaire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les locaux ont disparu d'ailleurs, c'est qu'on a introduit des abeilles domestiques qui n'ont pas survécu à long terme à cause de la rigueur du climat. Ben, voilà ce que font les gens pendant toute la bonne saison, c'est polliniser à la main chaque fleur. Donc conclusion, à long terme, ben, l'érosion de la biodiversité met en péril le support naturel des sociétés humaines et même peut-être à terme pourrait précipiter leur effondrement, parce que je vous signale quand même que il y a de plus en plus de preuves aujourd'hui que les sociétés, beaucoup de sociétés se sont effondrées sans qu'il y ait d'invasion, des choses comme ça, elles se sont effondrées par elles-mêmes. Donc ça, on n'a peut-être pas l'habitude de penser à ça, mais c'est quelque chose pour lequel, enfin, c'est une idée pour laquelle il y a de plus en plus de preuves à l'heure actuelle.